Les capsules du patrimoine, bonjour. Les capsules du temps sont des objets enfouis dans la terre à destination des générations futures. Elles laissent une trace qui renseigne sur une époque. L'émission Les capsules du patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du PMI d'Icercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui, Carole Stanitsky et Sandrine Rueffli, bonjour.
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 Nous parle des pans de bois. Alors, en quoi ça consiste? Comment construire une maison en pans de bois? L'emploi dans les bourgs ou en campagne? Et puis, son abandon progressif à partir du XVIIe siècle dans cette émission aujourd'hui. Et pour commencer, c'est quoi le pan de bois?
Alors, le pan de bois, ça désigne une technique et le matériau utilisé. Le pan de bois, c'est un ensemble de pièces, des pièces horizontales, des pièces verticales, qui vont être assemblés pour former une sorte de squelette. Et à l'intérieur de ce squelette, on va y mettre différents matériaux qu'on appelle remplissage. Alors le pan de bois, on le connaît aussi sous un autre nom, qui est colombage. La colombe, c'est la colonne, donc ça désigne plus les poteaux de la structure. Cette technique, elle a été employée tout temps. On le connaît en France, dans le Jura depuis le néolithique, des habitats lacustres sur pilotis. On l'a employé pendant toute l'Antiquité, mais sur notre territoire, en pays Midi-Quercy, les exemples les plus anciens datent du XIIIe siècle. Ce sont deux grandes maisons en calcaire, des maisons d'une grande qualité architecturale. Elles se situent dans le centre-bourg, la maison qu'on appelle Maison Muratelle, non loin de la place de Halle. Et Siruquet-Sac, pardon.
C'est à Saint-Antonin.
On ne l'a pas précisé, c'est à Saint-Antonin.
C'est à Saint-Antonin, effectivement. On n'est pas loin de la place de la Halle à Saint-Antonin. Donc, on utilise le bois et le torchis ici, à l'intérieur, uniquement pour les cloisons. On voit là que les constructeurs avaient un large choix dans les matériaux de proximité, le calcaire, le bois, la terre, et ils ont su sélectionner ces matériaux et les hiérarchiser. Ils ont réalisé une vaste enveloppe, puisque chacun de ces bâtiments comprend plusieurs corps de bâtiments, donc une grande enveloppe en pierre de taille. Ensuite, ils ont bâti les planchers et enfin les cloisons, ce qui leur a permis de diviser l'espace en fragilisant à minima la structure et le plancher sur lequel la cloison repose. Oui, excepté ces deux exemples du XIIIe, la majorité de l'emploi du pan de bois date des 15e et 16e siècles. C'est pour ça qu'on appelle ces deux siècles-là l'âge d'or du pan de bois. Et puis, comme on l'a dit précédemment, les siècles suivants, au fil du temps, on va progressivement délaisser cette technique.
Comment est-ce qu'on construit une maison en pan de bois ?
Alors, le montage de ces maisons s'effectue par un charpentier. L'avantage, c'est que c'est un montage qui est rapide. Chaque pièce de bois a une fonction particulière. Les pièces de bois peuvent être semblées, en tout cas, assez identiques, mais aucune n'est interchangeable. Donc, elles vont donc être marquées, des petites marques qui peuvent ressembler à des chiffres romains, pour que, au montage de cet ensemble, le charpentier puisse se repérer, le charpentier ou son associé, si ce n'est pas la même personne qui a taillé et qui monte. Vous pouvez encore les observer, ces petites marques. Si on regarde précisément les poteaux, on voit des petits chiffres romains, des flèches, des ronds. Alors, l'ensemble de ces pièces de bois, on l'a dit tout à l'heure, étaient au sol. Ils étaient assemblés au sol chevillé et ensuite avec un système de grue, l'ancêtre de la grue qu'on appelle la chèvre. L'ensemble était hissé sur un rez-de-chaussée, le plus souvent en calcaire. Et comme ça, on montait niveau par niveau. En général, les maisons ne dépassent pas deux étages sur notre territoire. Et une fois qu'on avait monté ces deux étages, on fixait la charpente qui bloquait l'ensemble, charpente qui avait un avant-toit très prononcé, ce qui permettait de protéger les façades des intempéries, de la pluie, car évidemment, une fois qu'on avait monté toute cette ossature en pan de bois en finalisant par la charpente, il fallait s'occuper des interstices entre les bois et de remplir ces espaces, soit par du torchis, qui, on le rappelle, est un mélange de terre, de végétaux et d'eau, ou alors par de la brique, ou encore du tuf, hein, cette roche poreuse assez légère qui était facile à tailler. Alors ces exemples-là, vous pourrez en voir à Caylus et à Saint-Antonin. Ces maisons étaient des maisons polyvalentes, c'est-à-dire que on travaillait en rez-de-chaussée. On trouvait souvent un rez-de-chaussée avec un commerce, un local artisanal qui était ouvert sur la rue. Le premier étage était occupé par l'habitation. Et quand il y avait un deuxième étage, il y avait soit aussi un espace d'habitation ou encore un lieu de stockage des denrées.
Les capsules du patrimoine sur CFM, cette émission du service inventaire du pays Midi-Garcia aujourd'hui à propos de l'architecture en pan de bois. Alors, on va voir un petit peu des exemples de ce qui se passe en ville, en campagne. Alors, en campagne, autant le dire, il n'y en a pas beaucoup encore à voir, mais un large emploi dans les bourgs.
Oui, beaucoup de maisons en pan de bois sont effectivement conservées dans les bourgs. Et ce, on pense, une bonne conservation grâce à la mitoyenneté de ces maisons. Alors, quand est-ce que on a construit ces maisons? On l'a dit tout à l'heure, principalement au XVe siècle, au lendemain de la guerre de Cent Ans. À Montricou, quand vous déambulez dans les rues, vous pouvez voir énormément de maisons en pan de bois. C'est là qu'il y en a le plus. Et par l'analyse des sources, on se rend compte que l'on a construit 45 maisons en pan de bois en 15 ans dans le faubourg, et ce, entre 1463 et 1478. C'était donc une période où il fallait reconstruire vite, en grand nombre et à moindre coût. Et la matière première était donc à portée de main, hein, puisque là, on a des ressources locales de vastes forêts seigneuriales à l'époque qui étaient toutes proches, la forêt du Bretou, de l'Avore ou encore la forêt de la Garrigue, et qui ont permis cet approvisionnement local en bois d'œuvre en chêne. Alors, le pan de bois, il a aussi d'autres avantages, hein. Il offre de larges possibilités architecturales. On l'a dit, il est rapide à monter. Et en plus de ça, il s'adapte aux contraintes du parcellaire, qui parfois est étroit, comme on peut le voir à Réalville, hein, le parcellaire de la Bastide, qui imposait une largeur de façade de 4,70 m à 4,80 m. Donc c'est vraisemblablement cette étroitesse de façade qui a dicté le choix du pan de bois dans des rues comme la rue de France ou encore rue de l'Église à Réalville. Le pan de bois, c'est un peu l'ancêtre de la préfabrication. Il va permettre de dupliquer des façades, de faire des modules répétitifs. Et ça, vous le voyez autant à Montricou qu'à Réalville et encore ailleurs. Hein. Ce sont les deux exemples comme ça qui me viennent dans un premier temps en tête. Mais on peut le voir aussi dans d'autres bourgs comme Saint-Antonin.
Varin, Parisot, Montpezat de Quercy, Puy-la-Roque et Bruniquel.
Alors, une idée reçue peut-être qu'on souhaitait contrecarrer, c'est aussi le choix de la technique du pan de bois n'est pas, entre guillemets, comme on peut l'entendre parfois, le choix du pauvre. Hein. Absolument pas. À Montricou, lors de l'étude, on se rend compte qu'on a de grandes maisons en pan de bois qui s'élèvent au bord de la grande rue, qui à l'époque médiévale était un axe marchand. Donc ce pan de bois, c'est pas une technique qui est propre à un quartier, à une activité ou encore à une classe sociale. Pour exemple, une grande maison aux 32 grandes rues, non loin de la mairie, presque en face. C'est une maison qui appartenait à Guillaume Caillard, qui était l'un des plus riches propriétaires fonciers à Montricou. Une maison construite avec grand soin, une construction mixte, donc avec du calcaire en rez-de-chaussée et au niveau du mur arrière. Et puis, ces deux niveaux en pan de bois, en encorbellement, c'est-à-dire en surplomb sur la rue. Hein. L'encorbellement, il permettait de gagner de l'espace dans les étages. Et puis, on n'a pas parlé encore des contreventements, c'est-à-dire des grandes croix de Saint-André. Les grandes croix de Saint-André, ce sont ces pièces de bois qui, assemblées, ressemblent à des X, hein, qui permettaient de maintenir et de bloquer la construction. Et cette grande maison a bénéficié d'une étude vaste et d'une analyse dendrochronologique. Alors là, j'ai peut-être dit un gros mot. La dendrochronologie, c'est quoi? C'est une technique de datation qui est très précise et qui permet de déterminer la date d'abattage des bois à l'année près. Donc on sait que cette maison, les bois ont été prélevés en hiver, l'hiver 1459-1460, c'est-à-dire que la maison là a été bâtie très peu de temps après. Et on sait également que les bois ont été utilisés verts, il n'y a pas eu de temps de séchage. On l'a dit, hein, cette période, le bois est abondant et de qualité. Donc une constante pour ces maisons, qu'elles soient grandes ou plus petites. Quand on dit grande maison, on sous-entend une largeur de façade de 6 à 10 mètres. Et donc les petites sont les maisons qui ont une façade inférieure. La constante, c'est l'emploi du chêne, un chêne de qualité. Alors pourquoi cette essence? On l'a dit parce qu'elle est à proximité, mais aussi elle a les qualités pour tenir dans le temps. C'est un bois dense, un bois dur, un bois qui est capable de résister à de fortes charges, aux intempéries et dont la durabilité est presque infinie. Hein. On le voit là avec cet exemple du 32 Grande Rue. La maison est toujours là et là, 560 ans tout de même. Peut-être une anecdote pour cette maison à laquelle je pense, parce que c'est assez invraisemblable dans notre travail. Lorsqu'on étudiait cette maison du 32 Grande Rue, on a fait évidemment plusieurs visites en regardant tous les recoins de la maison, en essayant de comprendre comment était maintenu le torchis. Elle a été explorée dans les moindres recoins, et justement en observant ce torchis, on a pu découvrir un papier qui avait été glissé entre le bois et le torchis, vraisemblablement au moment de la construction, qui avait été volontairement glissé ici et qui remontait à la seconde moitié du 15e siècle, hein, qui était un petit papier qui était une copie d'un héritage qui avait été rédigé par le propriétaire de la maison. Voilà. Alors qu'il eût cru que 560 ans plus tard, on allait au hasard de l'étude tomber sur ce papier, une découverte vraiment émouvante pour nous.
Une capsule du patrimoine. Justement, on est bien sur CFM dans cette émission du Pays Midi-Quercy, du service inventaire du patrimoine. On va poursuivre cette émission consacrée à l'architecture en pan de bois.
Et un extrait de Salvatore Adamo en hommage à André Lacombe, historien de Montlécou.
L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil.
CFM de retour dans cette émission Les Capsules du Patrimoine, aujourd'hui consacrée à l'architecture en pan de bois. On a fait un petit peu le tour de la définition de cette question et on a vu ce qu'on pouvait retrouver aussi en ville. Alors une exception en campagne, à Caussade.
Oui, tout à fait. L'usage du pan de bois est vraiment majoritaire dans les bourgs, hein, en Pays Midi-Quercy. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, donc à la fin du 15e siècle, on n'en trouve pas en campagne. Mis à part à la ferme du Soulier à Caussade. C'est vraiment l'unique exception qui concerne la commune de Caussade, mais qui concerne l'ensemble du Bas-Quercy, hein, en fait. Il s'agit d'une ferme qui est implantée sur les hauteurs de Caussade, on est sur les premiers coteaux, ça domine la vallée de l'Allaire. Et cette ferme, en fait, présente toutes les caractéristiques des maisons de Montricou, dont Sandrine vous a parlé tout à l'heure. Donc c'est une ferme qui a deux niveaux en pan de bois. On retrouve les mêmes sections de bois très larges, c'est des bois qui font 17 à 29 cm de large, donc c'est quand même important. C'est du bois de chêne, évidemment. C'est l'époque, hein, la fin du 15e siècle, les forêts sont nombreuses. Et il y a, dans cette maison, pas qu'une seule maison. En définitive, c'est le rassemblement de trois maisons. C'est comme un petit lotissement, une sorte de barre de logement mitoyen. Et c'est ça qui est passionnant pour cette ferme du Soulier, puisque quand on s'approche de près, on réalise que vraiment, il y avait trois petites maisons mitoyennes, les unes à côté des autres. Alors ça, c'est évidemment pour une économie de moyens évidente, hein, de rassembler comme ça trois maisons avec une seule et même toiture. Et aujourd'hui, c'est bien observable dans cette campagne de Caussade. Alors, grâce à l'autorisation du propriétaire de cette ferme, on a pu, avec Sandrine, effectuer des prélèvements de ce torchis, puisque c'est une maison en pan de bois qui a un remplissage de torchis. Et donc, on a regarder comment était assemblée cette matière entre les poteaux de bois. C'est important de faire cette étape-là pour comprendre vraiment comment, à la fin du Moyen-Âge, on a assemblé ces poteaux de bois et la terre qui était comblée à l'intérieur. Alors là, en deux mots, c'est assez simple, hein, c'est comme à Montricou, c'est entre deux gros poteaux de bois, il y a un système d'éclisse, c'est une petite baguette de bois de chêne, hein, également, qui est fichée dans des trous. On la glisse par une rainure et on la fiche dans un trou dans le poteau tous les 20 cm. Et sur cette barre de bois, cette petite éclisse, on met à cheval ce qu'on appelle une torche. Et une torche, c'est un mélange de paille, d'eau, de foin et de terre, évidemment, et qu'on va mettre à cheval, comme ça, sur la partie en bois. Et après ça, en grattant, justement, dans cette matière terre, donc on a bien vu qu'il y avait cette torche qui était assemblée sur l'éclisse. Par-dessus, il y avait ensuite un renformi, en fait, un mélange de terre avec... il y avait même du crottin, probablement de cheval. Il y avait des éléments de fibre animale aussi, de la fibre végétale. Donc ça, c'était dans le renformi pour uniformiser un peu les parois. Par-dessus, il y avait un gobti. Et puis enfin, il y avait un corps d'enduit un peu plus épais d'un centimètre. Et par-dessus, enfin, un enduit de finition de couleur un peu ocre. Donc on a analysé tout ça. On a regardé un petit peu aussi la composition de cette terre. C'est une terre qui était très fine. On a fait tout ce travail-là avec l'aide d'un laboratoire qui s'appelle le LMDC, qui est à Toulouse, et qui, lui, s'est occupé de faire des analyses physico-chimiques, en fait, de cette matière terre. Donc voilà, pour comprendre la chimie un peu de ce matériau, faire une analyse minérale logique et comprendre aussi la granulométrie, donc c'est-à-dire quelle est la proportion de paille, de foin, de terre, d'argile, de sable, de limon qu'il y avait à l'intérieur de ce torchis. Donc voilà, c'est une ferme à Caussade qui était suffisamment exceptionnelle pour qu'on y passe un temps certain, puisque c'est l'unique cas à notre connaissance de pan de bois de la fin du 15e siècle en campagne.
Et construction, architecture en pan de bois qui a été progressivement abandonnée à partir du XVIIe siècle.
C'est ça, le pan de bois disparaît assez progressivement, en effet, à partir de cette époque-là, à partir du XVIIe. C'est aussi lié vraisemblablement à des édits royaux qui, à cette époque-là, interdisent les avancées sur l'espace public. Ces avancées de maisons, c'est les encorbellements, hein, dont parlait Sandrine tout à l'heure. Alors tout ça, c'est pour lutter contre les incendies, hein, évidemment. Et puis les encorbellements engendrent des désagréments, c'est comme des entraves à la circulation, à l'ensoleillement aussi, hein. Et donc, essentiellement au 19e siècle, on fait des plans de réalignement aussi, hein, dans les bourgs, et on réaligne les façades. Et à cet effet-là, à cette époque-là, on recule les façades en pan de bois. La technique le permet, hein, c'est souple, donc on peut reculer une façade en pan de bois. Donc ça, c'est fait à Montricou en 1828, comme le montre le plan d'alignement de cette date. Mais on l'a constaté également à Parisot, à Varins, à Réalville. C'est une pratique assez courante, hein, de reculer les façades en pan de bois ou de les réaligner. Il y a aussi une, donc c'est une raison donc administrative, sociale, mais il y a aussi une raison esthétique à faire disparaître le pan de bois, puisqu'on constate aussi souvent le pan de bois masqué par un enduit qui est décoré d'un faux appareil en pierre de taille. Donc en fait, on a l'impression, on a l'illusion d'une façade en pierre, mais en fait, en dessous, on reconnaît bien les poteaux de bois et c'est vraiment une façade qui est construite en pan de bois. Donc voilà, soit on masque la mise en œuvre, soit on la recule, soit on la fait totalement disparaître, parce qu'il y a une raison assez évidente à tout cela, c'est que cette technique de terre, là, de torchis et pan de bois, elle disparaît quand apparaît une autre technique bien connue ici sur le territoire, qui est celle de la brique de terre crue. À partir du moment où cette technique-là de terre, qu'on appelle la daube, la brique de terre crue, eh bien, dès qu'elle apparaît, elle fait disparaître cette technique ancestrale de pan de bois, quoi. C'est pourquoi, à partir du 18e et au 19e siècle, dans les bourgs du pays Midi-Quercy, vous trouverez très peu de pan de bois, voire absolument pas de pan de bois. En revanche, toutes les maisons sont construites en briques de terre crue ou briques de terre cuite. Donc voilà, c'est une technique constructive qui en a fait disparaître une autre. Mais bon, c'est un grand classique de la construction. Donc ça, c'est en bourg. En revanche, en campagne, il y a encore quelques constructions en pan de bois, ça et là, à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Clairement, on le sait aussi par les sources. Un exemple, en 1811, dans le canton de Caussade, ça, ce sont des statistiques agricoles qui nous l'attestent. On sait que les maisons en pierre ou en brique appartiennent à des propriétaires aisés, alors que le plus grand nombre des habitations est en torchis et les murs en pan de bois. Voilà, c'est ce qui est écrit dans ces statistiques. Donc, il y a encore du pan de bois en campagne au 19e siècle. Mais aujourd'hui, en 2021, vraiment, la plupart de ces constructions ont disparu. On en a inventorié vraiment très, très peu avec Sandrine sur le terrain. Il y a une autre très belle exception qui se situe sur la commune de Lapinche, d'une ferme construite en pan de bois à la fin du XVIIIe siècle, donc période assez récente. On se trouve à Joanal, donc à Lapinche. Et là, c'est une petite ferme qui a été construite en 1791. On le sait parce qu'il y a déjà une date sur un linteau, mais souvent c'est pas fiable, mais là ça l'est. Mais on le sait aussi parce qu'il y a eu aussi dans cette ferme une campagne de dendrochronologie, donc ce gros mot qui signifie la datation des bois par les cernes des bois. Et donc dans cette ferme, elle est à l'extérieur en pierre, en briques crues, il y a un peu une variété de matériaux. En revanche, c'est à l'intérieur qu'on trouve le pan de bois, en cloison. Et c'est cette cloison-là qui a été datée. Et ce qui est intéressant ici pour l'usage du bois, c'est qu'il diffère vraiment en tout point de son usage à la fin du XVe siècle, puisque là, vous allez trouver des bois de plus faible section, des bois de maigre qualité, ils sont tordus, ils sont plus petits en taille. Et les essences employées sont assez surprenantes à Joanal, sur cette commune de Lapinche, puisqu'on trouve de l'orme, du merisier, et puis beaucoup de bois de haie, en fait. Du prunus, en fait, voilà. En définitive, on fait avec ce qu'on a, puisque à la fin du 18e au 19e siècle, il faut pallier à la pénurie de bois d'œuvre, parce qu'on n'a plus ces forêts, il y a un véritable recul du massif forestier, donc voilà, il faut bien pallier cette pénurie en bois, donc on fait avec ce qu'on a, et du bois de haie. C'est le cas à Lapinche.
Une émission sur l'architecture en pan de bois, donc comment pourrait-on la conclure ?
Ben, pour conclure cette histoire du pan de bois, on peut rappeler ce que disait l'architecte Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné de l'architecture. Le pan de bois garantit mieux les habitants d'une maison des variations de la température extérieure qu'un mur de briques ou de pierre. Il n'est pas de construction à la fois plus solide, plus durable et plus légère. Durabilité. Adaptabilité, matériaux de proximité, le bois est une matière première renouvelable d'actualité et d'avenir.
Sandrine Rueffli, Carole Stadnitzky du service inventaire du patrimoine du PETR Midi-Quercy, merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.